Lizzie présente Nos vérités, mon rêve américain de Kamala Harris, lu par Annie Milon. À mon époux bien-aimé, merci d'être toujours si patient, affectueux, encourageant, paisible, et surtout, de me faire tellement rire. Préambule. Le matin, Doug, mon mari, se réveille le plus souvent avant moi et reste au lit pour lire les nouvelles. À ses réactions, un grognement, un soupir, une exclamation, je peux deviner comment la journée s'annonce. Celle du 8 novembre 2016, la dernière de ma campagne pour devenir sénatrice des États-Unis, avait très bien commencé. Je la consacrais à rencontrer autant d'électeurs que possible, et bien sûr, je votais moi-même dans l'école de notre quartier, à deux pas de la maison. Nous étions d'excellente humeur. Nous avions réservé une salle immense pour la soirée électorale, et le lâcher de ballon était prêt. Avant cela, néanmoins, pour respecter une tradition datant de ma toute première campagne, je devais dîner avec ma famille et quelques très bons amis. Mes tantes et cousins, ma belle famille, la belle famille de ma sœur et d'autres encore, avaient fait le voyage des quatre coins du pays, et même de l'étranger. Et nous avions prévu de nous réunir pour ce qui devait être, espérions-nous, un moment exceptionnel. Je regardais par la vitre de la voiture, méditant sur tout ce que nous avions accompli, lorsque j'entendis l'un des petits grognements expressifs de Doug. « Regarde un peu ça », dit-il avec gravité en me passant son téléphone. Les premiers résultats de l'élection présidentielle commençaient à tomber, et il se passait quelque chose d'inquiétant. Le temps que nous arrivions au restaurant, l'écart entre les deux candidats s'était déjà considérablement réduit. Moi aussi, en mon for intérieur, je grognais. Les projections du New York Times indiquaient que nous avions sans doute devant nous un long et sinistre suspense. Nous nous installâmes pour le dîner dans un petit salon à l'écart de la salle principale du restaurant. Tout le monde était très ému, survolté, mais pas pour les raisons que nous avions envisagées. D'un côté, même si les bureaux de vote n'étaient pas encore fermés en Californie, nous étions optimistes pour ma candidature au Sénat. Mais tout en anticipant cette victoire conquise de haute lutte, nous consultions sans cesse nos écrans, où, état après état, les chiffres de la présidentielle déroulaient un récit troublant. Mon filleul Alexander, qui avait 9 ans, s'approcha à un moment de moi, les yeux gonflés de larmes. Supposant que l'un des autres enfants de notre groupe l'avait vexé pour une raison ou une autre, je dis « Viens me voir, mon grand. Qu'est-ce qui t'arrive ?» Alexander leva le menton pour soutenir mon regard. Il répondit d'une voix tremblante « Tati Kamala, il ne faut pas que cet homme gagne. Il ne va pas gagner quand même. » L'inquiétude du petit garçon me fendit le cœur. Je refusais que quiconque fasse du mal de cette façon à un enfant. 8 ans plus tôt, nous avions été nombreux à verser des larmes de joie lorsque Barack Obama avait été élu à la Maison-Blanche. Et maintenant, voir la peur d'Alexander. Son père Reggie et moi le prîmes à l'écart pour le consoler. « Alexander, tu sais que les super-héros, parfois, se retrouvent face à un très grand défi parce qu'un méchant se prépare à les attaquer. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font, à ton avis, dans cette situation ?»« Ils ripostent ?» dit timidement le petit garçon. « Exactement. Et ils ripostent avec émotion. » parce que les meilleurs super-héros éprouvent des émotions très fortes, comme toi. Mais ils ripostent toujours, n'est-ce pas? Alors c'est ce que nous allons faire. Peu après, la Société de presse annonça ma victoire. Nous étions encore au restaurant. Je ne vous remercierai jamais assez d'avoir été avec moi à chaque étape, et depuis tout ce temps, depuis si longtemps, dis-je à ma famille et à mes amis. Tous ces gens qui m'apportaient une affection et un soutien extraordinaire. C'est tellement important pour moi. J'éprouvais une immense gratitude autant envers les personnes présentes dans cette salle qu'envers celles que j'avais perdues en chemin, en particulier ma mère. C'était un moment unique, à savourer, et je m'en accordais brièvement le temps. Mais bientôt, je reportais, comme tout le monde, mon regard vers la télévision et les résultats de la présidentielle. Après le dîner, nous prîmes la direction de la salle où devait se dérouler notre soirée électorale, en présence de plus d'un millier de personnes rassemblées pour fêter ma victoire. Je n'étais plus simplement candidate. J'étais désormais une sénatrice élue, la première femme noire dans mon État et la seconde dans l'histoire du pays à décrocher ce titre. J'avais aussi été désignée pour représenter plus de 39 millions de personnes, soit à peu près un Américain sur huit, de toutes origines et de tous horizons. C'était, et cela reste, une leçon d'humilité et un honneur extraordinaire. Mon équipe m'applaudit et poussa des hurrahs lorsque j'entrais dans la loge derrière la scène. Tout nous semblait encore un peu irréel. Aucun de nous n'avait assimilé complètement ce qu'il venait de se passer. Ils formèrent un cercle autour de moi, tandis que je les remerciais pour le travail qu'ils avaient effectué. Nous étions comme une famille, nous aussi, et nous avions vécu ensemble une aventure exceptionnelle. Certains m'accompagnaient depuis ma première campagne, 13 ans auparavant, pour devenir procureur de district. Mais à présent, près de 2 ans après le début de notre campagne sénatoriale, nous avions une nouvelle montagne à gravir. J'avais préparé un discours fondé sur la promesse de la victoire d'Hillary Clinton, qui aurait été la première femme élue présidente des États-Unis. Je laissais de côté ce texte devenu inutile avant de gagner la scène pour parler à mes supporters. J'embrassais la salle du regard. Elle était pleine à craquer, de la fosse au balcon. Beaucoup de gens qui suivaient les résultats nationaux en direct semblaient en état de choc. Je leur dis que nous avions du travail devant nous. Les enjeux étaient immenses. Nous devions nous promettre de rassembler notre pays, de faire le nécessaire pour protéger nos valeurs fondamentales et nos idéaux. Pensant à Alexander et à tous les enfants, je posais cette question. Allons-nous reculer ou nous battre? Moi, je dis, il faut se battre. Et c'est ce que je compte faire. Plus tard, nous rentrâmes à la maison avec quelques membres de la famille venus de loin qui logeaient chez nous. Nous passâmes tous par nos chambres pour nous mettre en tenue décontractée avant de nous retrouver dans la grande pièce de vie. Certains s'installèrent sur les canapés, d'autres par terre. La télévision captiva très vite notre attention à tous. Personne ne savait trop comment réagir. Chacun encaissait le choc à sa façon. Assise avec Doug sur un canapé, je dévorais un paquet entier de Doritos nature, sans proposer la plus petite chips à quiconque. Mais j'avais déjà compris ceci. Si une campagne était derrière nous, une autre s'annonçait dans laquelle nous allions tous devoir nous engager. Cette fois, pour défendre l'âme de notre nation. Dans les années qui ont suivi cette élection fatidique, nous avons vu une présidence américaine s'aligner sur les tenants de la suprématie blanche au niveau national et copiner avec des dictateurs à l'international, arracher des bébés des bras de leur mère en violation manifeste de leurs droits élémentaires, accorder d'énormes réductions d'impôts aux multinationales et aux riches tout en ignorant la classe moyenne, contrecarrer la lutte contre le changement climatique, saboter l'accès aux soins de santé et compromettre le droit des femmes à être maîtresses de leur corps. Tout cela en agressant verbalement à peu près tout et tout le monde, y compris le principe même d'une presse libre et indépendante. Nous valons mieux que cela. Les Américains savent que nous valons mieux que cela. Mais nous allons devoir le prouver. Nous allons devoir nous battre pour ce que nous sommes. Le 4 juillet 1992, Thurgood Marshall, premier noir nommé à la Cour suprême, l'un de mes héros, qui m'a toujours tellement inspiré, prononça un discours dont les mots ont une résonance profonde aujourd'hui. « Nous ne pouvons pas faire l'autruche, » dit-il. « La démocratie ne peut tout simplement pas prospérer dans la peur. La liberté ne peut pas s'épanouir dans la haine. La justice ne peut pas prendre racine dans la fureur. Les Américains doivent se mettre au travail. Nous devons rompre avec l'indifférence. Nous devons rompre avec l'apathie. nous devons rompre avec la peur, la haine et la défiance.